Vous écoutez RTL.
8h38, merci beaucoup d'écouter RTL. La revue de presse maintenant avec Adeline François et dans les journaux ce matin, l'eau, la terre et les plantes.
Depuis début février, un front froid s'est installé sur le nord de la France. Il s'est mis à pleuvoir sérieusement sur toute la région parisienne. La Seine, la Marne, Lyon gonflent. 1 mètre de niveau supplémentaire par jour. Pour les prévisionnistes, plus de doute, entre le 7 et le 12 mars, l'inondation qui arrive battra la crue historique qui avait noyé Paris en 1910. Le 11 mars, Maison Alfort est engloutie, comme une bonne partie du Val-de-Marne. À Paris, les 12e, 15e et 7e arrondissements sont les plus submergés. La RATP a fermé le métro, qui est sous l'eau aussi. Dans les Hauts-de-Seine, plus un seul pont n'est utilisable. Il n'y a plus de courant, plus d'eau potable, plus de téléphone portable non plus, et plus de chauffage urbain. 1 million de rats commencent à sortir des sous-sols. 2 points de PIB en moins pour le pays en quelques jours. Ce scénario catastrophe est celui que les spécialistes appellent la crue centennale. C'est sûr, elle aura lieu un jour, disent-ils. Problème, on n'y est absolument pas sensibilisé ni préparé. Les gens se disent, on a fait des progrès depuis 1910, ça n'arrivera plus. Oui, on a fait des progrès. On a surtout creusé des galeries pour le métro, pour enterrer des câbles. Et dans ce bel entonnoir qu'est la région parisienne, tout est là pour que l'eau monte plus haut qu'en 1910. Alors autant prévenir. Le Monde, Libération, Les Échos et L'Express reviennent tous ce matin sur cet exercice grandeur nature qui va être mené à partir de lundi prochain. Paris coule-t-il, titre L'Express, même titre en une de Libé, avec une photo spectaculaire de la Tour Eiffel inondée jusqu'au premier étage. À partir de lundi donc, et pendant 2 semaines, on va simuler la crue du siècle avec les autorités et des entreprises publiques et privées. Une vidéo a même été préparée pour le public. Elle sera visible près de la Tour Eiffel. Elle se termine avec une question abyssale. Êtes-vous prêt ? Le public pourra tester sa vulnérabilité à la crue avec un jeu, nous dit Libération, et de nombreux cadeaux à la clé. On ose imaginer lesquels.
Lui rêve de se jeter à l'eau dans une piscine. L'astronaute américain Scott Kelly de retour sur Terre depuis ce matin.
Oui, on vous en a parlé à 7h sur RTL. Il a quitté la Station Spatiale Internationale où il se trouvait depuis 340 jours. Presque 1 an dans l'espace. L'ISS, explique L'Express sur son site ce matin, va perdre son meilleur ambassadeur 2-0. Pourquoi ? Parce que Scott Kelly aura passé 1 an à poster des photos sur Twitter. On l'a vu jouer au ping-pong avec une balle faite d'eau. On l'a vu faire une course-poursuite dans l'ISS avec un collègue, mais surtout, on a vu tous ces couchers de soleil. Depuis l'espace, il y en a 16 par jour. Il en a posté des centaines. Il a aussi photographié des aurores boréales, des sommets enneigés. Et le soir du 13 novembre, il a posté une photo prise depuis son hublot de Paris, illuminé la nuit. En ce moment, Scott Kelly se trouve dans un avion qui le ramène chez lui à Houston. Il va notamment y retrouver son frère jumeau. Le site Slate raconte ce matin que ce jumeau homozygote faisait partie intégrante de la mission dans l'espace, dont l'objectif était d'aider la NASA à mieux préparer les allers-retours vers Mars. Leur durée va précisément s'élever à 1 an. Les deux frères ont le même ADN, les mêmes chromosomes. On va réellement pouvoir mesurer l'impact de la vie en apesanteur sur l'organisme de Scott en le comparant tout simplement à celui de son jumeau Mark. Et les scientifiques préviennent déjà, Scott aura le visage beaucoup plus rond. Les fluides de son visage ont passé 1 an à aller vers le haut.
Alors, bon retour sur Terre à Scott Kelly, une Terre avec moins de milliardaires.
Oui, c'est le magazine Forbes qui publie ce matin son classement annuel, le fameux « Les plus riches du monde ». Et aux surprises, les milliardaires sont moins nombreux et moins riches. Et c'est la première fois depuis 7 ans. On compte actuellement quand même 1800 milliardaires sur Terre, mais il y en a 16 de moins par rapport à l'année dernière. Et leur fortune moyenne s'est réduite de 10%. Instabilité de la bourse, baisse du prix du pétrole, dollar fort. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, reste avec 75 milliards de dollars l'homme le plus riche du monde, mais quand même, il a perdu 4 milliards en 1 an. Le seul qui s'en sort, en fait, c'est le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a vu sa fortune gonfler de 11 milliards. Il passe ainsi de la 16e à la 6e place. On notera qu'il n'y a que 2 Français dans le top 50, Liliane Bettencourt, 11e, et Bernard Arnault, 14e. Mais ils sont loin, très très loin devant Donald Trump, 324e du classement Forbes. Mais ce qu'il faut lire à son propos ce matin, c'est cet article du Boston Globe repris par Libération qui a en fait analysé les discours de tous les candidats à la Maison-Blanche en ce moment. Et résultat, le plus pauvre, c'est Trump. Il a le langage d'un élève de CM1, le moins de caractères par mot, le moins de syllabes, les phrases les plus courtes, comme dans son slogan « Make America Great Again ». « Je » est le mot qu'il emploie le plus avec « winner ». Une pauvreté linguistique qui se retrouve aussi dans les attaques contre ses adversaires. Stupide, idiot, abruti, au choix. Il n'est pas un benêt. mais il parle comme tel, écrit Libé, et ça paralyse ses opposants, tiraillés entre le désir refoulé de se mettre à son niveau et la nécessaire décence d'un aspirant à la présidence. Alors pendant ce temps, le journal Le Monde nous raconte dans ses pages science un article passionnant. Les plantes communiquent entre elles. Des chercheurs viennent de le démontrer formellement. Les plantes sont parcourues de mystérieux signaux électriques qui leur permettent d'élaborer des stratégies pour combattre des agresseurs. Alors au Japon, quelques jours avant le séisme de 2011, on a ainsi relevé une activité électrique anormale des arbres qui s'est intensifiée à l'approche du jour J. Les arbres se prévenaient du séisme qui allait arriver. En Afrique du Sud, plus spectaculaire encore, des acacias se sont mis d'accord pour produire plus de tanins et rendre leurs feuilles toxiques à la digestion. Stratégie pour éliminer en fait un herbivore qui pullulait dans la région et qui menaçait la survie des acacias. En langage fleuri, ça donnerait « Make acacia great again ».
En tout cas, je viens de découvrir la centrale syndicale des acacias grâce à vous et c'est dans la presse ce matin. Tout cela a été signé comme chaque jour Adeline François.